Bonsoir les amis des livres et des apéros. La réussite, c'est le but d'une vie. Objectif, un métier qui rapporte, une famille adorable et une belle maison, sans oublier la Rolex. Amour et confort matériel sont la clé du bonheur. Mais pas du tout, s'écrit la littérature, mais c'est pas vrai. Oh, en tout cas, c'est pas une réussite cette émission. Regardez du côté des livres, c'est l'inverse. La littérature regorge de Golden Boy qui envoie tout balader. Moins que zéro de Bret Easton Ellis raconte un jeune homme prometteur qui brûle sa vie. Et regardez Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale de Flaubert. Il plante un entretien pour un poste en or dans une compagnie minière pour aller courtiser une femme qui s'en fout. Et Agatha Christie, elle a un manoir, un mari, une petite fille, du succès et elle décide de disparaître pendant 11 jours et personne ne sait ce qu'elle a fait entre le 3 et le 14 décembre 1926. La réussite n'exclut pas la disparition, voire même elle en est parfois la cause. Et si vous en doutez encore, lisez « L'homme qui s'envola » d'Antoine Bellot, paru chez Gallimard. Walker a tout pour être heureux, comme on dit. Il dirige une entreprise à succès, possède assez d'argent pour piloter des avions. Sa femme est belle et dévouée, ses enfants ont de bonnes joues et sa maison du Nouveau-Mexique est un rêve de magazine déco. Mais il faut se méfier des gens heureux. Walker a le sentiment que le temps lui échappe et ça, il n'aime pas. Il commence par acheter une corde, un sac à dos et une gourde. Il étudie des cartes ainsi que le saut en parachute. Le plan de Walker, cracher son avion, faire croire qu'il était dedans alors qu'il aura sauté avant. Et il le fait, mais il y a certaines choses qu'il n'avait pas prévues. Et nous voilà embarqués dans ce roman qui aurait pu s'appeler La Disparition, comme celui de Georges Perec, qui mêle le suspense et la mélancolie et qui fait du temps le minerai le plus précieux parce que le plus menacé de nos ultra-modernes solitudes. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Antoine Bellot parmi les flammes d'un avion vide. Il nous révélera ses secrets d'écriture cachés comme un kit de survie enterré sous un sapin, ce sera le procès-verbal, nous offrira ses goûts culturels cachés aussi honteux que le plan de départ d'un père de famille, ce sera les inavouables, avant qu'un libraire, gardien de nos absences, ne vienne pardonner nos fuites en forme d'espoir.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Antoine Bellot.
Bonsoir Clara.
Votre héros, il s'appelle Walker. C'est le marcheur, en quelque sorte.
C'est le marcheur, en anglais c'est même un petit peu plus que ça. Quand on dit de quelqu'un qui he walks from a situation, ça veut dire il démissionne, il s'en va, il abandonne.
Parce que ça aurait pu être le voleur, il vole le bonheur des siens et il vole dans un avion aussi.
Absolument, mais il n'y avait pas de bon jeu de mots à faire en anglais pour ça.
Flyer serait été bizarre.
Oui.
Flyer
serait été bizarre. Ça aurait été un petit peu appuyé, peut-être.
Walker, c'est un homme qui résout des problèmes. Il y a un problème avec l'entreprise, il le règle. Il y a un problème avec un client, il dit sa phrase favorite, « bougez pas, j'arrive ». Il résout les problèmes de maths de ses enfants, le dîner des voisins, il résout de toute façon. Et c'est peut-être Paul Virilio, le philosophe, qui définit le mieux le mal dont souffre Walker.
Nous vivons en ce moment l'instantanéisme. La simultanéité, l'ubiquité, etc. font que nous vivons l'instant et non plus le présent. Je dis non, nous ne sommes même plus au présentisme, nous sommes dans l'instantanéisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner en dehors du contrôle possible ou non de l'instant.
Voilà. Est-ce que c'est ça dont souffre Walker, Antoine Bellot, la tyrannie de l'instant?
C'est probablement un des maux dont il souffre. Je ne crois pas malheureusement le pauvre qu'il en soit responsable. Je pense qu'on est câblé comme ça ou programmé comme ça. Il y a des gens qui sentent la responsabilité de devoir résoudre tous les problèmes du monde, en tout cas tous ceux qui atterrissent sur leur bureau, dans les entreprises, dans les familles. C'est comme par hasard, Walker est toujours le seul qui sait redémarrer le serveur Wi-Fi dans la maison, le seul qui sait faire démarrer le barbecue, le seul qui sait traiter les problèmes de ressources humaines ou de marketing ou configurer le serveur email de l'entreprise. Et on rentre à ce moment-là dans un cercle vicieux. Comme il est le seul qui sait le faire, tous les problèmes finissent par lui échoir. Il devient de plus en plus fort pour les résoudre, de plus en plus rapide, et il en a de plus en plus. C'est la fameuse phrase, quand vous avez quelque chose à faire très vite dans une entreprise, donnez-le à la personne la plus occupée, parce que c'est elle qui la traitera le plus rapidement. Il ne peut pas se permettre de procrastiner.
Mais cette fonction d'homme indispensable pourrait l'épanouir et le rendre très heureux, parce que c'est très gratifiant.
Pendant un moment, je crois que ça l'a épanoui. C'était en effet très gratifiant. ans. Il dit qu'il a connu l'ivresse du pionnier, enfin l'ivresse des bâtisseurs. Il a pris cette entreprise quand elle avait de mémoire 200 ou 300 salariés. Il l'a portée à une taille aujourd'hui beaucoup plus importante. Elle a 5000 salariés. Il a connu cette ivresse d'ouvrir de nouveaux territoires, d'ouvrir de nouveaux bureaux, de nouvelles filiales. Mais il arrive à un âge de sa vie, il a au début du récit 43 ans, à un moment de sa vie où il a l'impression de vouloir plus et il a surtout l'impression que tout se ligue contre lui. C'est pas simplement l'entreprise, parce qu'une entreprise, on peut en démissionner, on peut nommer quelqu'un à sa tête, mais c'est aussi, il a la même impression dans sa famille, il a la même impression dans ses relations humaines. Tout le monde demande des choses de cet homme et finalement, personne ne lui apporte ce dont il a véritablement besoin. De quiétude. Il le dit à un moment, il donne régulièrement, enfin, sa femme organise régulièrement des grands raouts dans leur propriété du Nouveau-Mexique pour recevoir la grande société d'Albuquerque. Et il dit, il aurait aimé parler de ses sujets préférés, de cinéma, d'intelligence artificielle, d'astronomie, mais apparemment personne ne partageait ses hobbies.
Mais ça veut, il est aimé, Walker, par ses enfants, par sa femme, il est aimé. D'ailleurs, il les aime. Et il y a, est-ce qu'il n'y a pas un message sous-jacent qui n'est pas très optimiste, qui consiste à penser que l'amour ne fait pas le poids dans ces cas-là? L'amour ne le retient pas?
Absolument. Enfin, il le retient pendant un moment. Clairement, il y a un sentiment de culpabilité énorme. Il met longtemps avant de passer à l'acte. Et il y passe d'ailleurs très très progressivement et j'ai essayé de créer une sorte d'engrenage où on a l'impression qu'à partir du moment où il a acheté son sac, qu'il est allé enterrer dans la montagne justement avec un kit de survie, à partir de ce moment-là, les étapes s'enchaînent relativement naturellement. Il passe son temps à se rassurer, à se dire « non mais là je le fais pas vraiment, c'est juste je vais enterrer ce kit de survie au cas où ». Mais un jour l'occasion se présente et là en une microseconde, il va prendre la décision de le faire. Et non, l'amour ne le retient pas, c'est quelque chose de plus fondamental, d'essentiel pour lui.
Est-ce que vous diriez qu'il est égoïste ?
Oui, moi je pense qu'on devrait tous être égoïstes. Une vision qui a été professée par cette philosophe américaine Ayn Rand, qui a écrit un livre « Les vertus de l'égoïsme », qui explique que si chacun vivait sa vie et si chacun pensait à ses propres intérêts, plutôt que d'essayer d'imaginer ce que sont les intérêts des autres ou de demander aux autres de combler nos vides, tout le monde s'en porterait beaucoup mieux.
Vous êtes à rebours là, de tout l'état d'esprit d'une époque qui consiste à penser au vivre ensemble, la planète, tout
je
ça.
Je suis à rebours d'une société et je suis à rebours d'une époque, mais j'assume, c'est ce que je ressens, c'est ce que ressent Walker. Il est donc égoïste. Ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, c'est de créer de l'empathie. Je voulais que le lecteur, après avoir lu 60 ou 80 pages où on explique véritablement les motifs pour lesquels Walker part, se dise... Ben, ça se comprend.
Il a raison.
J'aurais pu faire pareil. C'est dur pour sa famille, mais on est quand même un petit peu de son côté. Et mes lecteurs me disent, au début, on le déteste. Après, on se met à le comprendre. Et à la fin, on a peur d'être de son côté.
C'est pour ça que vous ne l'avez pas fait devenir... psychopathe d'un coup, on en a vu des films, des livres écrits avec quelqu'un qui est très heureux, tout lui réussit, et puis en fait, il y a une sorte de frustration qui monte, et puis il pète les plombs, comme on dit, et il se met à commettre des actes sanglants.
C'est très dramatique, ou voire cinématographique. Je pense pas que ce soit très très réaliste. Je le vois, lui, beaucoup plus, pas comme une cocotte minute, comme un bain-marie. Ça dure des années et des années. Et même à la fin, il comprend que de toute façon, sa meilleure alliée, c'est sa raison, c'est sa logique, son sens de l'organisation. Il va préparer son départ très, très, très méthodiquement. Et c'est pour ça que quand l'imprévu va surgir, ça va être un grand, grand, grand désarroi pour lui.
Alors, il choisit pas n'importe quel départ, Walker, il choisit les airs. Bon, il aurait pu choisir une autre voie.
Maintenant, je vais prendre la mer. Je vais aller au loin et ne jamais revenir. Je vais disparaître, Hélène. M'effacer.
Extrait de Que la bête meurt en 1969 de Claude Chabrol. Alors pourquoi pas la mer finalement?
Film magnifique, Que la bête meurt, il faut absolument le voir. La mer, c'est déjà la voie qui est choisie par deux disparus célèbres, Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté et le personnage de l'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy. Donc ça a déjà été fait. J'aimais beaucoup l'idée, Walker est décrit au début du livre comme un pilote. La seule chose qu'il aime, et c'est évidemment une métaphore, c'est piloter son avion. Il a appris à piloter pour pouvoir gagner du temps dans son travail, pour pouvoir enchaîner les rendez-vous plus vite.
Toujours rationnel.
Exactement, très rationnel. Mais il a découvert qu'il aimait ça. Et ces moments où il est suspendu entre ciel et terre sont finalement les meilleurs de sa vie. Et donc c'est assez naturellement qu'il va utiliser son avion pour mettre en scène sa disparition. Et son plan est assez simple et se tient bien. C'est-à-dire qu'il a remarqué que entre deux villes entre lesquelles il a l'habitude de faire la navette, se dressait une montagne assez élevée dans un massif du Nouveau-Mexique, qu'il pouvait assez facilement faire croire qu'il avait perdu en fait le contrôle pour une histoire de dépressurisation de cabine. Il n'était plus en état de piloter et l'avion s'est crashé dans la montagne à 3000 et quelques mètres d'altitude. Et il choisit exprès une façade de la montagne qui est extrêmement escarpée, dans laquelle il est plausible qu'on ne retrouve pas son corps.
Vous êtes pilote vous-même ?
Pas du tout, mais je me suis renseigné un petit peu. J'ai appelé des pilotes pour qu'ils m'expliquent ça. Mais sans être pilote, je peux comprendre l'ivresse qu'on doit ressentir, notamment quand on se sent prisonnier de son existence, comme c'est son cas.
Alors, il y a une scène qui est géniale, où Walker, donc il a crashé son avion, bon, il est tenu pour mort, et il regarde les coupures de presse, et puis les médias, qui annoncent sa mort. Et il voit tout ce qui est écrit sur lui. Là, vous titillez un vieux fantasme qu'on a souvent.
Et assister à ses
obsèques. Bah oui, où oui. On assiste à ces, qu'est-ce qu'on dirait de moi, oui. Cette espèce de petite jubilation qu'on a complètement interdite et tabou, que tout le monde vous pleure. Et c'est ça que vous titillez un peu comme fantasme.
Oui et non, parce que Walker, comme les gens véritablement égoïstes et ces hommes d'action dont il fait partie, se fout éperdument de la vie des autres. Entendre qu'il était le meilleur entrepreneur que le Nouveau-Mexique ait jamais connu de la bouche du gouverneur, il s'en fout. La seule chose qui l'intéresse, c'est les images et les mots que prononcent sa femme et ses enfants. Donc il va lire en effet une oraison funèbre assez déchirante prononcée par sa femme et ensuite les messages qu'ont laissés ses enfants sur un livre d'or qui a été mis en ligne sur le site de la société. C'est un moment qui est bouleversant pour lui et à l'issue duquel c'est probablement la seule fois où il se dit si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Il prend vraiment conscience de la monstruosité de ce qu'il a fait.
Nous nous sommes demandé ce qu'écouterait Walker comme musique dans son périple. Alors on a pensé à quoi ? On a pensé à On trace la route de Christophe Maé, mais puis on n'est pas sadique, hein, donc on s'est dit que non. On a préféré Change, c'était gratuit et méchant. On a préféré Change de Barry White parce que c'est 150 kilos de sensualité et que Walker il aura adoré.
Amuse-Bouche sur France Inter.
Antoine Bello est avec nous jusqu'à 20h pour son roman L'homme qui s'envola, l'histoire d'un homme à qui tout réussit et qui décide pourtant de disparaître. Et pourtant, ça fait un peu bizarre parce qu'il a un beau travail, il a des beaux enfants et il a une femme.
Ça, c'est ma femme, Caroline. Vous remarquez comme le manche des cisailles s'accorde élégamment avec ses sabots de jardinage. Ce n'est pas un hasard.
Engrais universel et coquille d'œuf.
Mon Dieu.
Oui, c'est ma petite.
Rien que de la regarder m'épuise.
Et une fois par mois, vous rajoutez un engrais à base.
Elle n'a pas toujours été
c'est
comme ça.
Plus économique et surtout, c'est
avant, elle était heureuse.
C'était un extrait d'American Beauty de Sam Mendes en 2000. Est-ce que Sarah, la femme de Walker, elle est un peu castratrice?
Oui, un petit peu, à son insu. Elle ne veut...
Ah, c'est pire, sauf qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle l'émascule tout doucement.
Oui, mais malheureusement, je pense que c'est le propre souvent des femmes castratrices. Ce n'est pas une femme méchante, ce n'est pas une femme mauvaise, ce n'est pas Folcoche. Hein. Sarah, très 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 loin de là. Walker en est tombé éperdument amoureux quand il l'a retrouvée. Ils avaient fait leurs études ensemble, mais il l'a retrouvée ensuite quand il avait autour de 25 ans. Elle a tout pour elle. C'est une très belle femme. Elle est athlétique. Elle a fait les meilleures études. Elle travaille dans la société familiale, donc, avant de s'arrêter pour s'occuper de ses enfants, s'occuper très bien de ses enfants. Walker le reconnaît. Elle a de l'humour. Elle est intelligente. Elle a énormément de choses pour elle. Elle a un problème, en tout cas pour Walker, c'est qu'elle a une idée très précise du style de vie qu'elle veut. Pour elle, il ne fait aucun doute que leur bonheur passe par Albuquerque, par le développement de cette entreprise qui s'appelle Wills, et qu'ils vont y rester pendant les prochaines décennies. Ils y mourront, ils ont une très très belle maison, ils sont des notables. Elle veut créer une fondation caritative pour plein de motifs très très nobles, permettre à des jeunes défavorisés de faire de bonnes études.
Ce dont Walker se fout complètement.
Mais elle insiste énormément. Elle dit non, on va faire comme Bill et Melinda Gates, on va ensemble étudier tous les dossiers, et ça le barbe prodigieusement. Et c'est d'ailleurs assez révélateur de leur relation. Elle ne l'écoute pas, ou plus exactement, elle ne le prend pas au sérieux.
Au départ, on la voit évoluer, on se dit, bon, c'est la femme au foyer, bien docile, qui est capable de mettre un maximum d'énergie dans un goûter d'anniversaire, dans une réunion de copropriétaires. Et puis, elle se révèle.
Absolument.
Son mari a disparu.
Elle se révèle dans l'épreuve, comme c'est l'endroit où on se révèle généralement. Elle se révèle parce qu'elle reste incroyablement forte. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas craquer. Elle a trois enfants qui viennent de perdre leur père. Elle aussi, elle a perdu son compagnon, au début pensant qu'il est mort dans la montagne, dans cet accident. Et elle fait vraiment passer les besoins de ses enfants avant les siens en disant « Un jour, j'aurai besoin de pleurer, d'aller voir un psy, de processer tout ça ». Mais ce jour n'est pas arrivé.
C'est
je n'ai pas
force.
Ce luxe.
La démarche sacrificielle est une force.
Être capable de le faire à ce niveau, je pense qu'en effet, c'est une force.
Alors, elle va passer à l'action, mais elle ne sera pas seule. Et là, le livre bascule dans quelque chose de très, très cinématographique.
Madame Sampson ?
C'est moi.
Louis Harper. Albert Graves m'a dit que vous aviez besoin de mes services.
Vous voulez boire quelque chose ?
Jamais avant les repas.
C'est curieux pour un détective.
Nouvelle vague.
Mon mari a subitement disparu.
Appelez la police.
Ah, quelle fâcheuse publicité. Et Ralph est la publicité. En plus, il a une peur maladive de la police.
Paul Newman et Lorraine Bacall dans Détective privé en 1966. Dans votre roman, L'homme qui s'envola, Antoine Bello, le personnage du détective n'en est pas un. Il s'appelle Nick Shepherd.
Oui,
je l'ai
Shepherd.
Bien dit. Shepherd.
Oui, oui.
C'est qui lui ? Il sort d'où ? C'est compagnie d'assurance lui ?
Oui, absolument. Il est mandaté par la compagnie d'assurance parce que la société de Walker avait pris une assurance sur sa tête, comme ça se fait très souvent. On appelle ça une police d'assurance homme-clé. Donc la société devait toucher, payer une prime chaque année et en échange devait toucher 30 millions de dollars en cas de disparition accidentelle de Walker. C'est donc ce qui est arrivé et la compagnie d'assurance, comme c'est d'usage dans ce genre de cas, commandite un expert qui doit aller s'assurer que le décès est parfaitement légitime. Donc ce détective ne trouve pas la dépouille. Mais comme on l'a dit, c'est tout à fait possible et envisageable. Le corps a pu tomber dans une crevasse. Sauf que ce détective, qui est un très 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 bon détective, le meilleur du métier, c'est peut-être la seule chose que n'avait pas prévu Walker, acquiert très rapidement la conviction que Walker a mis en scène sa propre disparition.
Et là, vous basculez dans une espèce de traque et au bout d'un moment, on ne sait plus qui est le chasseur et on ne sait plus qui est la proie.
Absolument. En fait, c'est un affrontement psychologique. Quand je dis « il acquiert la conviction », son principal argument, c'est de dire « il m'a l'air de quelqu'un de très intelligent. Si je me mets à sa place et que j'avais dû mettre en scène ma disparition, comment m'y serais-je pris ?» Exactement de la même façon. Et c'est le début d'une traque pendant laquelle chacun des deux va essayer de se mettre à la place de l'autre. Shepard, en interrogeant Sarah et en recueillant des témoignages sur Walker pour essayer de comprendre à quel type d'homme il a affaire. Et Walker, en lisant le livre que ce ballot de Shepard a écrit, parce que ce grand détective n'a pas pu résister à la tentation d'écrire un livre dans lequel il dévoile ses trucs pour retrouver les fuyards.
Il se fait un peu mousser d'ailleurs.
Il se fait un petit peu mousser et donc Walker ne laisse pas passer cette chance unique. Il achète le livre, il l'apprend quasiment par cœur et on se retrouve dans un affrontement où les deux personnages en savent autant l'un que l'autre, sont aussi intelligents l'un que l'autre, disposent de moyens importants l'un et l'autre. Et je ne vais pas révéler la fin.
On bascule dans le roman noir presque. Hein. Vous suivez d'assez près les nouvelles technologies, comme on dit. Et alors, à cause d'elles, on ne peut plus avoir de disparition parfaite. Internet, les puces, etc. font qu'on ne peut plus aujourd'hui disparaître et s'effacer complètement.
Non, c'est quasiment impossible, à moins de renoncer à toute vie digitale, c'est-à-dire à se dire qu'on vivra sans téléphone portable ou sans tablette ou sans adresse email. C'est quasiment impossible. Ou alors, il faut prendre la place de quelqu'un, comme on voit le personnage de Don Draper, par exemple, dans Mad Men, ou c'est probablement encore la seule façon de disparaître. Ce qui est important avec cette histoire de disparition, parce qu'aux États-Unis, c'est un vrai sujet. Il y a 5 ou 10 000 skip tracers, donc détectives, dans le pays, pour chercher tous les gens qui essayent de disparaître. Donc 5 à 10 000 pour un pays de cette taille, ça donne une idée du nombre de gens qui essayent de disparaître. Alors pas toujours pour des motifs comme ceux de Walker, souvent pour ne pas payer une pension alimentaire, pour pas retourner en prison quand ils ont été libérés sous caution, mais ça vous donne quand même une idée. La principale règle des manuels de skip tracing, et j'en ai lu pas mal, c'est que l'argent est le nerf de la guerre. Si la personne qui part a plus d'argent que la personne qui le recherche, il a une chance. Si par contre vous partez avec peu d'argent devant vous et que les gens qui vous cherchent sont prêts à mettre des moyens importants pour vous retrouver, ils vous coinceront.
En 2010, vous mettiez en scène la disparition d'une femme dans Enquête sur la disparition d'Émilie Brunet. En 2016, votre dernier roman, Ada, mettait en scène la disparition d'un programme informatique, d'ailleurs chargé d'écrire aussi. Là, cette fois, c'est la disparition de Walker. Donc, soit vous allez disparaître vous-même en quittant ce studio d'ici peu, soit vous avez un truc avec l'idée de disparition. Vous souhaitez disparaître, Antoine Bello ?
Non, je ne souhaite pas disparaître. Je pense néanmoins que tout le monde a souhaité disparaître ou a pensé disparaître. Je rencontre beaucoup de lecteurs du livre en ce moment et je leur dis parfois, ils me demandent « Mais comment avez-vous l'idée du livre ?» Je dis « Mais qui n'a pas eu l'idée de disparaître au moins une fois ?» J'ai pas été démenti une seule fois. Enfin, les gens, quand vous le dites, ah oui, c'est vrai, oui, mais pas souvent. Oui, mais quand même, une fois, deux fois. Ça peut paraître parfois comme une solution à tous les problèmes ou même comme une occasion de renaître, de recommencer à zéro. C'est très romanesque comme idée. Il y a cependant, probablement dans mon inconscient, quelque chose de plus profond que ça. Je pense qu'en termes romanesques, en termes littéraires, la disparition, il faut bien mettre quelque chose dans le vide qui a été laissé par la personne qui est partie. La littérature est une tentative de ça, de reconstruire quelque chose, de restituer quelque chose. Enfin, pour moi, c'est un procédé qui fonctionne. Il me vient assez naturellement à l'esprit.
Mais est-ce que c'est pas un peu illusoire ? Je disparais parce que j'ai des soucis ou parce que je suis pas content de ma vie ?
Bien sûr. Les gens qui ont cette idée vont emmener leurs problèmes avec eux. Ah, je pars parce que j'ai des problèmes avec les autres ou parce que j'arrive pas à dialoguer avec ma femme. Il est probable que tu n'arriveras pas à dialoguer avec ta prochaine femme et que tes problèmes relationnels ne vont pas s'arranger. Mais vous avez d'autres cas. Le point de départ de l'homme qui voulait vivre sa vie, Douglas Kennedy, c'était quelqu'un qui commettait un meurtre par hasard, sans le faire exprès, presque. Il se trouve qu'il était aussi insatisfait de sa vie. Puis il y a beaucoup de gens qui partent, notamment aux États-Unis, pour des questions d'argent, des créanciers.
C'est moins glorieux.
C'est moins glorieux.
C'est moins romanesque. Il est temps de nous révéler vos plans à vous, Antoine Bello. Pas de disparition, vous l'avez dit, mais d'écriture. Et ça tombe bien, parce que c'est l'heure du procès-verbal. Votre nom ?
Bello.
Votre prénom ?
Antoine.
Vous écrivez assis, couché ou debout ?
Assis.
Sur ordinateur ou sur papier ?
Ordinateur.
Vous êtes musique ou silence ?
Silence.
Vous êtes chez vous ou au drugstore, parce que vous habitez aux États-Unis ?
Chez vous, le matin...
Non, pas chez moi. Dernière nouvelle, vous n'y étiez pas.
Chez moi, le matin, à Starbucks l'après-midi, dans un café ou un lieu public.
Quand vous levez la tête du coup de votre bureau ou de votre table, qu'est-ce que vous voyez ?
La campagne.
Le téléphone sonne, est-ce que vous décrochez ?
Non.
Vous pouvez pleurer ou éclater de rire en écrivant ? Ce qui suppose une perte de contrôle.
Pleurer non, éclater de rire oui.
Que faites-vous quand ça ne vient pas ?
Ça vient toujours, et ça vient toujours parce que je veux que ça vienne toujours. Je crois à un process d'écriture. Il faut écrire de toute façon, il faut avancer. Si c'est mauvais, on reviendra en arrière, ou on aura un rendement un peu plus faible ce jour-là. Mais il faut avancer. Regarder la feuille blanche n'est pas une solution.
Donnez-moi un mot pour définir la seconde, juste avant de vous mettre à écrire.
Angoisse.
Un mot pour la seconde qui suit le point final.
Soulagement.
Vous êtes libéré de ce procès-verbal, Antoine Bello. Fait-on ça avec Le Temps Passe, de l'éditeur. C'est le duo formé par Gaëtan Roussel et Rich Debrakny. Et c'est ça qui fait peur à Walker. Le Temps Passe.
C'est comme si c'était hier. Comme si l'endroit faisait l'envers. Comme si les images s'arrêtaient. Que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain. Comme si le soir venait le matin. Comme si la grande roue tournait. Et que l'horloge s'enrayait. C'est comme si c'était le moment. Comme si l'après pointait l'avant. Comme si qui sera été. Et que la mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite. Comme si c'était fini. Comme si la mémoire servait l'oubli. Comme si nos rêves souvenaient pas. Et que le réveil ne sonnait pas. C'est comme si c'était toujours. Comme si nos nuits étaient nos jours. Comme si le soleil vous détoie. Et que les étoiles ne brillaient pas. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite.
Vous écoutez l'Amuse-Bouche sur France Inter en compagnie d'Antoine Bello pour son roman L'Homme qui s'envola. Eh bien, j'en connais, moi, des gens qui offrent des envols pour pas très cher, qui ont le septième ciel généreux. Ce sont les libraires, Antoine. Et alors, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Ils ont pris l'habitude de nous appeler vers cette heure-ci, le samedi. Ça doit être leur façon de décoller. C'est très... Oh ! Oh, oh ! Quelle sonnerie de téléphone étonnante ! Allô ?
Allô, Clara ?
Oui !
Bonsoir, c'est Amel, j'appelle pour l'apéro.
Oh, mais bienvenue à bord, Amel ! Ne seriez-vous pas le siège 23C, c'est-à-dire Amel Zaidi, de la librairie 1000 pages à Vincennes ?
Exactement.
Alors,
moi.
Amel, soyez la bienvenue et ne craignez pas les turbulences. Notez comme je file la métaphore aérienne, je vous remercie. Et dites-nous quelle est la question la plus farfelue entendue dans votre boutique ?
C'était un tout jeune garçon qui m'avait demandé si nous n'avions pas en magasin les poèmes saturiens de Verveine. Voilà, ça fait partie de ces perles de librairie classique voilà, dont les stars sont les collégiens bien malgré eux.
Oui, puis alors avec le message sous-jacent, poésie exactement, égale je m'endors, hein, parce que de Verveine, oui. C'est soporifique
exactement.
Quand même.
Ça m'a frappé, c'était un jeu de mots pataphysique, complètement métapoétique, et lui-même se retrouvait poète sans en avoir conscience.
Tout comme on avait une libraire qui nous avait dit que quelqu'un lui avait demandé les jeux de l'amour et du bazar, et si ça c'était pas vrai, c'est absolument juste en fait, ça marche complètement. Quel livre conseilleriez-vous à notre invité Antoine Bello ?
Oui, Antoine Bello, bonsoir.
Bonsoir.
Si j'avais un livre à vous recommander, ce serait La conquête du bonheur de Bertrand Russell. Alors Bertrand Russell, grand philosophe britannique.
Mathématicien.
Et mathématicien, exactement. Prix Nobel de littérature 1950. La conquête du bonheur est un essai qui se compose de deux parties et dont la première analyse en fait toutes les différentes causes du malheur des hommes, telles que peuvent l'être l'esprit de compétition, la fatigue nerveuse, l'ennui.
L'anti-Walker, c'est l'anti-héros de Antoine Bello.
Exactement. Et dans une dernière partie, donc, il s'interroge sur la possibilité du bonheur. Et donc, et pour répondre à cette interrogation, il va se baser notamment sur les notions d'effort et de résignation. Alors, c'est un essai qui est susceptible de vous plaire, Antoine Bello, et qui est aussi susceptible d'intéresser votre personnage principal, Walker, puisque Bertrand Russell apporte une analyse vraiment clairvoyante de ce que représente la fatigue d'être soi. Il va apporter aussi des réponses sur ce qu'il nomme la tentation d'évasion. Et la tentation d'évasion, c'est finalement ce qu'expérimente Walker, c'est-à-dire ce désir de disparaître de soi, de se soustraire à sa propre vie sans pour autant se soustraire au monde. Et c'est la meilleure manière de tomber dans l'imposture, et l'imposture fait partie des causes du malheur des hommes. Donc, La conquête du bonheur, c'est un essai empreint de stoïcisme qui est vraiment accessible à tous, et c'est comme ça que l'a conçu Bertrand Russell, tel qu'il l'annonce dans un avant-propos. Voilà, il dit que cet essai n'est pas destiné aux érudits.
Donc c'est pour nous. Ben oui, non mais c'est pour nous. Est-ce que vous pourriez nous redonner, Amel, les références du livre de Bertrand Russell ?
C'est La conquête du bonheur, donc de Bertrand Russell, la petite bibliothèque Payot. Voilà, une main tendue d'un philosophe apaisé pour tous les humains qui souffriraient d'un boursouflement du moi, comme il le dit si singulièrement.
Antoine Bello, est-ce que ça vous donne envie de le lire ?
Je l'ai lu il y a longtemps, mais ce que vous en dites, j'avais pas réalisé à quel point il était d'actualité pour moi. Je dois absolument le relire. Je ne sais pas si Russell était un philosophe apaisé, hein. C'était une personnalité assez complexe.
Dans cet essai, c'est ce qu'on ressent.
Mais en effet, je sais que c'est ce à quoi il tendait. Et tendre à la sérénité, c'est probablement être déjà un peu serein soi-même. Donc je vais le relire.
Ah, ben voilà. Merci Amel Zaïdi de la librairie 1000 pages à Vincennes. Merci au magazine Page, la revue des libraires, partenaire de la Muse-Bouche. Amel, on vous attend pour un apéro américain. Moi, je le veux cliché, quoi. Je le veux gin tonic du Nouveau-Mexique. Voilà. Vous venez ?
Oui, parfait, j'arrive.
À tout de suite.
À tout de suite.
C'est l'heure des inavouables. Oui, parce que Antoine Bello, hein, on a beau être le roi des disparus, on n'en est pas moins homme. Je ne vous apprends rien. Donc, faillible, que je sache. Alors, y a-t-il une chanson, un film, un programme télé, catalogué un peu ringard, un peu kitsch, mais que vous affectionnez néanmoins en toute discrétion ?
C'est un programme radio que j'ai découvert récemment, bien que je crois qu'il existe depuis pas mal de temps. Ça s'appelle On de la raconte.
Sacrilège, mais c'est sur Europe 1.
C'est sur Europe 1. J'en suis absolument désolé. Moi, j'écoute assez de programmes de France Inter pour pouvoir de temps en temps vous faire une petite infidélité. Mais ce programme, c'est une volupté de fin gourmet.
On de la raconte.
Cette histoire débute le mercredi 27 mai 2009, aux alentours de 17h. Au moment où une très jolie jeune femme, ah oui, très jolie, se présente au commissariat de Moyeuvre-Grande en Moselle. Elle s'appelle Cindy Sénoc. Et elle est manifestement paniquée. Son compagnon, Serge Martz, a disparu. D'habitude, il vient passer toute la journée du mercredi avec nous. Avec les enfants, enfin, avec nos enfants. On a deux enfants, de 2 et 4 ans. Et puis là, il n'est pas venu. Je l'ai appelé 1000 fois, il répond pas. Je suis inquiète, quoi.
Voilà, alors Christophe Ondelat fait tous les personnages.
Tous les personnages, mais la voix est toujours à peu près la même. Que ce soit Cindy la manipulatrice, ou un inspecteur de police, ou un enfant, ou une personne âgée, c'est à peu près toujours pareil. C'est magnifique.
C'est une émission de faits divers qui balaye les faits divers de 1846 à 2013. Il faut le faire, quand même.
Alors, avec toujours un sens de la litote, un homme baigne dans son sang, il a été éviscéré, il a été énucléé, on retrouve 82 coups de couteau sur lui, quelque chose ne s'est pas passé comme prévu.
Je vous remercie, on a comme invité Christophe Ondelat sur France Inter. Cela dit, Antoine Bello, écoutez Affaires Sensibles de Fabrice Drouel, chaque jour à 15h. On a la même formule, nous, ici.
C'est la même chose, c'est mais pareil. En mieux,
voilà,
en service
ça,
public plus intelligent.
Avec une voix de crooner, vous voyez. Ah, oui. Non, ça, du coup, ça vous pose quelqu'un quand même. Est-ce que vous avez une chanson au rayon des inavouables ?
Oui, j'adore Les petits pains au chocolat de Joe Dassin.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La étrangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle.
Et alors, qu'est-ce qu'elle vous fait cette chanson, Antoine Bello ?
Il y a tellement de joie dans cette chanson. Enfin, il y a quelque chose avec la voix de Joe Dassin, ses paroles. Elle raconte une histoire toute simple, toute bête et en même temps très profonde, avec un message super positif.
Et puis ça fait danser aussi, parce que ce que les auditeurs ne voient pas, c'est que vous tordiez des mains et du bassin.
Oh là là, ça y est, je croyais que c'était l'avantage d'être à la radio. Mais non, en plus elle est associée à des très bons souvenirs, parce que c'est une chanson qu'on a découvert il y a quelques étés et qui est devenue la chanson de l'été. Donc on écoutait au bord de la piscine, dans la voiture, et voilà. Donc c'est à jamais associé à des...
Un souvenir heureux.
Absolument.
Avez-vous un classique qui vous tombe des mains, un grand chef-d'œuvre qu'il faut avoir lu et vous essayez, ça vient pas?
Le chef-d'œuvre ultime, La recherche du temps perdu de Proust, ça me...
Vous y arrivez pas?
Bah si, j'y suis arrivé, parce qu'il y a eu une époque où je croyais que même quand on n'aimait pas un livre, il fallait absolument aller au bout et que ça faisait partie d'une éducation classique. Donc je l'ai lu sans aucun plaisir. Je reconnais évidemment la valeur de ce livre qui est incomparable dans son genre. Ce n'est juste pas mon genre. Je repensais à ça, la dernière phrase de L'amour de Swann, et dire que j'ai gâché des années de ma vie pour une femme qui n'était même pas mon genre, et c'est dire que j'ai passé des heures et des heures sur un roman qui n'était même pas mon genre.
Bon, c'est sur ces mots définitifs que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table. Fugitive ou enracinée, vous êtes les bienvenus. L'homme qui s'envola d'Antoine Bello est paru chez Gallimard. La semaine prochaine, nous recevrons Isabelle Marié pour En cas d'exposition des personnes, paru chez Flammarion. L'amuse-bouche est un grand départ et éternel, orchestré par Marie-Annick Rimbaud, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Alexandre Chenet. Bonne semaine, n'oubliez pas de dire au revoir quand vous partez quand même. On vous embrasse et à samedi.